Bien, bonsoir et bienvenue pour cette deuxième séance du cycle consacrée aux révolutions. Donc, la semaine dernière, hein, on s'était surtout préoccupé de définitions et d'angles d'approche sociologique des phénomènes révolutionnaires. Et puis aussi, j'avais indiqué que pour la clarté de l'exposé, la suite du plan du cours suivra un ordre en quelque sorte chronologique, hein, en abordant ce qui se passe avant, pendant et après les révolutions. Alors évidemment, c'est une manière un peu simpliste de diviser le cours. La réalité des événements historiques ne se laisse pas découper sur des étapes aussi clairement distinctes. Mais c'est quand même un découpage pratique pour la clarté du propos. Alors donc, aujourd'hui, la séance, elle est consacrée à ce qui précède les révolutions, c'est-à-dire à ce qui les cause en nourrissant le mécontentement du peuple, mais aussi à leurs préconditions, à ce qui contribue à former un terrain propice, favorable à leur surgissement. Et on verra ainsi que ce n'est pas n'importe où, ni à n'importe quel moment, que des phénomènes de ce type peuvent apparaître et se développer. Alors, cette séance d'aujourd'hui, elle sera divisée en trois temps. Tout d'abord, les causes du mécontentement des futurs révolutionnaires. Ensuite, les conditions structurelles favorables au succès de leur entreprise de contestation du régime. Et puis, dans un troisième temps, on abordera le rôle des réseaux sociaux dans les phénomènes révolutionnaires. Alors, réseaux sociaux, pas au sens de Facebook ou de Twitter, hein, mais de formes de sociabilité qui vont relier les membres d'une population donnée. Et puis, en conclusion, j'aborderai certaines limites d'une interprétation par les causes qui rendent la prédiction des révolutions difficiles. Et tout ça, ça m'amènera donc au fil de ce cours à évoquer plus en détail certains des modèles théoriques que j'avais brièvement évoqués à la fin du cours précédent, mais aussi de présenter d'autres approches sociologiques. Alors donc, premier temps de cette séance, la question des causes de la montée du mécontentement. Et la semaine dernière, j'avais brièvement évoqué des modèles sociologiques qui posent le mécontentement au centre de l'analyse des révolutions. Et notamment, j'ai mentionné le modèle de James Davies, qui aborde ce mécontentement et ses causes en termes de frustration relative. Donc je vais faire un bref rappel de cette perspective. Donc ce terme de frustration relative, il désigne un sentiment de frustration qui n'est pas absolu ou objectif. Hein ? Davies s'appuie sur un constat qui est bien établi, c'est que dans une société, ce ne sont pas les plus pauvres et les plus dominés qui se révoltent le plus. Les plus malheureux, en général, ils sont tellement accablés par leur malheur et dépourvus des ressources et des compétences nécessaires pour pouvoir faire entendre leur mécontentement. Donc la frustration, elle est dite relative parce qu'elle est fondée sur la déception de certaines attentes. C'est notamment le cas lorsque l'économie se ralentit ou cesse de progresser après une phase de croissance rapide. Des gens qui ont vu leurs conditions s'améliorer, leurs conditions de vie s'améliorer régulièrement, continuent à espérer que ça va progresser sur le même rythme, alors que ce rythme s'est ralenti, voire s'est interrompu. On avait vu aussi que ce n'est pas simplement en termes économiques que ça se pose, mais également en termes économiques. J'avais fait référence à Tocqueville, qui est un des premiers à avoir développé ce type de perspective, au niveau cette fois politique, en disant que c'est au moment où un régime autoritaire relâche son oppression qu'il y a le plus de chances qu'une révolution apparaisse. Donc c'est des choses qu'on a vues brièvement la semaine dernière, mais qu'il vaut la peine d'illustrer. Et c'est ce à quoi je vais m'employer. Alors le premier exemple qui vient à l'esprit, parce qu'il est proche de nous dans le temps, ce sont les révolutions de Tunisie et d'Égypte, dont on voit d'ailleurs qu'elles ne sont pas terminées. Il suffit d'allumer la radio pour s'en rendre compte. Alors, vous vous rappelez que le point de départ de la révolution tunisienne, ça a été le suicide par immolation d'un jeune marchand ambulant de Sidi Bouzid, à qui la police avait confisqué sa marchandise. Alors, ce jeune, Mohamed Bouazizi, a été décrit, c'était pas tout à fait vrai, mais en tout cas, ça a eu une rumeur qui a prospéré en tout cas et qui était en adéquation avec un certain état de la société tunisienne. Donc il a été décrit comme exemplaire de la jeunesse tunisienne composée en grande partie de diplômés chômeurs. Et en effet, la démographie de la Tunisie, elle est marquée par la grande jeunesse de sa population, mais aussi par le fait que cette jeunesse a bénéficié d'un accès assez généralisé à l'éducation, mais aussi qu'elles ne trouvent pas d'emploi, d'une part parce que l'économie n'offre pas assez de postes à la hauteur de leur diplôme, mais également parce que la corruption et le népotisme de l'ancien régime faisaient que certains postes étaient monopolisés par des proches du pouvoir et étaient inaccessibles à ceux qui avaient les compétences requises pour les occuper. Alors, certains commentateurs ont mis l'accent sur la déception des attentes de promotion sociale de ces jeunes diplômés qui sont confrontés à des difficultés pour construire leur propre existence. On a insisté, par exemple, sur l'impossibilité pour eux de quitter le logement de leurs parents, sur l'impossibilité de se marier tant qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi stable et digne, sur l'humiliation à recourir à l'économie informelle pour survivre, etc. Il y a aussi quelque chose de normatif dans ce portrait de la jeunesse tunisienne, et qui a fait aussi son succès, en tout cas le succès de sa réception en France, c'est que, alors d'une part, on a la valorisation de la jeunesse qui représente l'espoir d'une société, hein. Et puis, on a plus confiance dans la contestation d'un régime autoritaire lorsqu'elle est menée par des diplômés qu'on suppose épris d'une volonté de modernisation de leur société. On retrouve donc dans ces explications le schème de la frustration relative. La révolution tunisienne pourrait s'expliquer par ce modèle-là. Les jeunes Tunisiens, aussi égyptiens, ont été déçus que leur investissement dans l'éducation n'ait pas été récompensé. Ce qui est intéressant à relever, c'est que la même explication en termes de frustration relative chez des jeunes diplômés a été avancée beaucoup plus tôt, il y a bien plus longtemps, pour expliquer mai 68. Des sociologues aussi différents que Raymond Boudon et Pierre Bourdieu ont aussi invoqué la surproduction de diplômés dans les années 60 qui, à la fin de cette décennie des années 60, ont été déçus par le rendement de leurs diplômes. Les effectifs des universités françaises, en effet, ont été multipliés par 4 entre le début des années 50 et la fin des années 60, à la fois sous l'effet de la croissance démographique, le fameux baby boom, mais aussi de la croissance économique, les 30 glorieuses, qui nécessitaient alors des travailleurs qualifiés dans les secteurs économiques en développement. Le souci, c'est que le marché de l'emploi ne s'est pas étendu dans la même proportion et à la même vitesse que se multipliaient les effectifs de diplômés. Et notamment, la croissance économique s'est ralentie dans la seconde moitié des années 60. Du coup, ceux qui ont été formés à l'université dans la seconde moitié des années 60 ont basé leurs attentes sur la rentabilité du diplôme qui était celle des années 50 ou du début des années 60. Mais quand ils ont reçu leur diplôme, cette rentabilité évidemment était moindre. Donc il y avait un effet de décalage entre leurs attentes et la réalité du marché du travail. Donc on retrouve pleinement ce schème de la frustration relative. Parce qu'il y a eu une inflation des diplômes, c'est-à-dire que il fallait des diplômes plus importants pour occuper le même poste. Je donne un exemple fictif, mais qui a une valeur un peu pédagogique. C'est, imaginons que dans les années 50, pour devenir notaire, il faut une licence en droit. À la fin des années 60, vu qu'il y a eu une surproduction de licenciés en droit, on dit aux licenciés, non, vous ne pouvez pas être notaire, maintenant il faut une maîtrise. Avec une licence, vous pouvez simplement être clerc de notaire. Donc, ils sont déçus, et c'est notamment la thèse de Bourdieu, ils nourrissent une certaine rancœur à l'égard de l'université qui n'a pas tenu ses promesses à leur égard, et c'est contre l'université que va s'exprimer tout d'abord leur critique au moment de mai 68. Un autre exemple encore du même ordre, que j'avais aussi signalé en passant la semaine dernière, c'est une autre situation de surproduction d'intellectuels, cette fois à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est un historien américain, Robert Darnton, D-A-R-N-T-O-N, qui a étudié ce phénomène-là dans plusieurs ouvrages, notamment dans un de 1983 qui a été traduit en français sous le titre « Bohème littéraire et révolution ». Et Darnton s'intéresse à des écrivains ratés, en tout cas des écrivains qui peinaient à se faire reconnaître dans les dernières années de l'Ancien Régime. On avait là aussi, d'une certaine manière, une surproduction d'intellectuels. Des écrivains qui auraient voulu devenir Rousseau ou Voltaire, mais qui n'ont pas été reconnus au niveau littéraire, qui cherchaient aussi, parce que pour vivre de sa plume c'est extrêmement difficile, qui cherchaient des pensions octroyées par le régime monarchique, qui cherchaient aussi des postes dans, on va dire, l'administration de la littérature, et notamment, paradoxalement, au sein des bureaux de censure, mais qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas été recrutés, et donc qui formaient une bohème pauvre à l'affût de tous les travaux d'écriture rémunérateurs, y compris les moins gratifiants symboliquement. Hein, c'est ceux qu'on appelait aussi les Rousseaux des ruisseaux. Et ils avaient fait de leur amertume et de leur aigreur un moteur de leur écriture, et ce sont eux qu'on retrouve parmi les auteurs de libelles et de pamphlets, qui circulaient à une grande diffusion dans la population et qui narguaient la censure en s'attaquant aux puissants et spécialement à la figure royale. Et ont été publiés à la fin du XVIIIe siècle de nombreux textes anonymes, parfois illustrés, qui se moquaient du couple royal, de, par exemple de l'impuissance supposée de Louis XVI et des mœurs dépravées de Marie-Antoinette à qui on prêtait de nombreux amants et maîtresses. Et ce sont ces écrits séditieux et clandestins, mais largement diffusés, qui, selon Darnton, ont miné la légitimité du pouvoir royal, bien plus que les écrivains ou les philosophes des Lumières, que, en fait, très peu de monde, en tout cas seulement les gens éclairés, intellectuels, lisaient. Donc ils auraient eu un effet, ces écrits, au niveau des idées, au niveau des représentations que le peuple se faisait de la légitimité de son monarque. Mais également, on s'oblige à penser, en pointant cette couche particulière d'écrivain et le style d'écriture, le style d'écrit qu'il produisait, on s'intéresse aussi aux conditions sociales de production de ces écrivains. Et on ne trouve pas n'importe qui parmi ces gens-là. On trouve par exemple Camille Desmoulins, on trouve Fabre d'Églantine, qui étaient des auteurs d'ancien régime de ces libelles anti-monarchiques et qu'on va retrouver parmi les révolutionnaires. Et on peut constater plus généralement que la méfiance à l'égard des intellectuels déclassés, c'est un thème fréquent, notamment dans la rhétorique conservatrice. Et par exemple, Raymond Aron, sociologue gaulliste, l'a aussi utilisé dans son explication et sa condamnation de mai 68. Alors, cet intérêt pour les frustrations relatives, il implique de se pencher sur les variations de la prospérité économique, puisque c'est notamment son ralentissement qui est invoqué pour expliquer la déception et l'amertume de la population. Alors, un autre exemple, c'est celui de la révolution iranienne, et c'est un exercice qui a été conduit par un sociologue américain, Charles Kurzman, qui a, dans son ouvrage que j'ai mis en bibliographie, étudie plusieurs pistes d'explication de la révolution iranienne. Et notamment, une de ces explications, c'est celle qui attribue la montée du mécontentement aux fluctuations de l'économie iranienne, parce que cette économie, elle était largement contrôlée par l'État, et d'autre part, elle était très dépendante des ventes de pétrole. Donc elle a connu à partir des années 50 une forte croissance, cette économie, qui s'est traduite par une modernisation de l'économie, mais aussi des structures sociales, avec notamment, comme souvent dans les processus de modernisation, un plus large accès de la jeunesse à l'enseignement supérieur. Cette croissance, elle a aussi conduit à des phases de surchauffe économique, avec des phases de forte inflation, mais aussi des fluctuations avec les effets des chocs pétroliers des années 70. On pourrait donc supposer que ces fluctuations économiques ont eu des répercussions sur le moral de la population et sur son soutien au régime du Shah, conformément donc au modèle de la frustration relative. Simplement, le souci, c'est que cette hypothèse n'est pas confirmée, notamment du fait que l'Iran n'était pas le seul pays exportateur de pétrole à subir les mêmes fluctuations économiques. D'autres pays, le Venezuela par exemple, ont subi beaucoup plus fortement les fluctuations du marché du pétrole. Mais de l'ensemble de ces pays exportateurs de pétrole qui ont connu ces fluctuations économiques des années 70, l'Iran est le seul à avoir connu une révolution. Et la même critique peut s'étendre aux autres exemples que j'ai évoqués. L'idée que, certes, on peut mettre en relation des phénomènes qui suscitent de la frustration relative, mais on ne voit pas le mécanisme qui entraîne la révolution. Alors, la Tunisie, certes, n'est pas en mesure d'offrir des emplois qui correspondent aux qualifications de sa jeunesse, mais elle n'est certainement pas la seule dans cette région. Et surtout, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein, ça fait des années que cette situation dure et qu'elle nourrit le mécontentement de la jeunesse. Mais jusqu'à présent, ça n'avait pas donné lieu à une révolution. Même l'immolation de Mohamed Bouazizi n'était pas quelque chose d'inédit. Il y avait eu d'autres suicides comparables en Tunisie ou ailleurs au Maghreb. De même, il y en a eu après, par exemple en Algérie, mais ça n'a pas enclenché un mouvement insurrectionnel. L'explication de mai 68 par la surproduction de diplômés n'est pas davantage convaincante. Lorsque la révolte étudiante a éclaté, les effets de ce décalage entre le nombre de diplômés et la capacité du marché du travail à les absorber n'étaient pas encore sensibles. Les étudiants étaient encore à l'université quand ils se sont révoltés. Ils n'avaient pas encore cherché un emploi correspondant à leur diplôme et donc ils n'avaient pas pu encore éprouver les effets de l'inflation des diplômes. Et puis on peut remarquer que des diplômés en surnombre, ça fait un petit moment que la France en produit. Et on n'a pas eu depuis 40 ans que ce processus de surproduction de diplômés continue, on n'a pas eu de nouvelles crises de l'ampleur de mai 68. Et puis par rapport au dernier exemple que j'ai cité, hein, le régime de Louis XVI et la surproduction d'intellectuels frustrés, on peut remarquer que le régime de Louis XIV, celui de Louis XV, n'était pas forcément plus légitime aux yeux du peuple français que celui de Louis XVI. Et déjà, la pratique des pamphlets, le mécontentement à l'égard du monarque était déjà présent sans enclencher de révolution. Bref, la frustration relative, elle permet d'identifier certaines conditions favorables à une révolution, mais pas une cause déterminante. Pour reprendre la métaphore de la semaine dernière basée sur la phrase de Mao, hein, une étincelle peut mettre le feu à la plaine, la frustration relative peut contribuer à assécher la prairie, mais elle n'est certainement pas l'étincelle en elle-même. Je passe maintenant à mon deuxième point, donc sur les conditions structurelles favorables à l'enclenchement d'une révolution. Ben, déjà, on a commencé à en aborder, hein, certaines préconditions structurelles avec ces fluctuations économiques, ces logiques démographiques qui éventuellement produisent une surproduction de diplômés, etc. Alors, je vais poursuivre dans cette piste en évoquant d'autres perspectives qui s'inscrivent plus directement dans ce registre d'interprétation, donc qui valorisent les variables structurelles, ce que, là aussi, pour faire écho à la semaine dernière, ce que Paul Venn appelle les causes profondes, donc qui travaillent en profondeur l'infrastructure ou l'armature des sociétés. Alors, parmi ce type d'interprétation, le marxisme, bien sûr, fait figure de référence obligée, puisque cette tradition fait de la crise révolutionnaire l'aboutissement d'une exacerbation de l'antagonisme de classe. C'est le fait que les sociétés soient structurées en classes, aux intérêts opposés, qui apparaît central. Et c'est l'infrastructure qui détermine en dernière instance les formes historiques de cet antagonisme inhérent au rapport de production. Alors, on avait vu aussi la semaine dernière, hein, dans le débat, que la pensée de Marx est beaucoup plus complexe que l'économisme mécaniste auquel l'a réduit une certaine postérité ou vulgate marxiste. Et on avait vu aussi que dans certains écrits, comme le 18 Brumaire, une large place est accordée à la logique de l'événement et à l'action des acteurs. Mais il n'en reste pas moins que le cadre d'analyse marxiste est un des premiers à avoir autant mis l'accent sur les structures sociales dans l'irruption des révolutions. Un autre modèle structurel que j'avais rapidement évoqué la semaine dernière, c'est donc celui de Barrington Moore dans Les origines sociales de la démocratie et de la dictature. Alors, c'est un ouvrage qui rompt avec le marxisme en affirmant que les révolutions ne dépendent pas tant du poids politique du prolétariat que de celui de la classe paysanne, en tout cas dans les révolutions russes et chinoises. Et l'analyse de Moore, elle est plus complexe que celle de Marx, Marx y insiste sur l'opposition entre deux classes. Mais Moore intègre un plus grand nombre de classes sociales, la paysannerie, le prolétariat urbain, l'aristocratie foncière, la bourgeoisie qui elle-même peut être foncière, commerçante, industrielle ou encore financière. Et puis également le pouvoir central qui, chez lui, joue un rôle autonome. Alors, cette idée de l'autonomie du pouvoir, je vais bientôt y revenir, au travers de l'auteur sur lequel je vais plus me concentrer maintenant, dans cette partie structurelle, donc cet auteur qui est Teda Skocpol. Alors, comme Moore, elle adopte une démarche comparative. C'est une sociologue américaine, Teda Skocpol. Elle adopte une démarche comparative avec moins de cas pris en compte que Barrington Moore, qui est comparé aux six pays principalement. Elle va retenir trois grandes révolutions. La révolution française de 1789, la révolution russe de 1917 et la révolution chinoise de 1949. Alors, elles ont en commun, ces révolutions, d'être ce que Skocpol, là aussi j'y avais fait brièvement allusion la semaine dernière, ce qu'elle appelle des révolutions sociales, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas seulement permis un changement de régime politique, mais elles ont également provoqué une transformation des structures sociales. Alors, le livre de Skocpol, il s'appuie sur des prémices théoriques fortes, qui sont au nombre de trois, que je vais exposer maintenant. La première, c'est qu'elle défend une perspective résolument structurale, ou structuraliste, peu importe, c'est-à-dire non volontariste, au sens où l'action volontaire des acteurs ne joue, selon elle, qu'un rôle négligeable et qu'elle laisse à l'écart de son analyse. Pour elle, les avant-gardes révolutionnaires n'ont jamais provoqué les crises révolutionnaires, au mieux, elles ont simplement pu les exploiter. Je vais la citer. Passage du livre où elle résume bien sa pensée. Les situations révolutionnaires se sont plutôt développées à partir de crises politiques militaires de l'État et des classes dominantes. Et ce n'est qu'à la faveur des possibilités ainsi ouvertes que les dirigeants révolutionnaires et les masses révoltées ont contribué à l'accomplissement des transformations révolutionnaires. Par ailleurs, les masses révoltées ont assez souvent agi de par elles-mêmes, sans être directement organisées ou idéologiquement inspirées par des dirigeants et des objectifs ouvertement révolutionnaires. Fin de la citation. Alors, on voit que là, on est en complet désaccord avec des gens comme Lénine ou Trotsky qui, en tant que praticiens aussi et organisateurs de révolutions, vont insister sur le rôle des organisations d'avant-garde et qui vont faire de l'irruption d'une crise révolutionnaire le produit aussi d'une action volontaire des révolutionnaires organisés. Skocpol nous dit juste l'inverse, c'est que les militants organisés qui entendent préparer le grand soir ne font qu'accompagner ou récupérer une dynamique de révolte qu'ils ne maîtrisent pas. Le deuxième principe d'analyse de Skocpol, c'est qu'on ne peut penser les révolutions seulement au niveau national, mais qu'on doit les situer dans le contexte international. Et donc, elle distingue plusieurs niveaux auxquels ce contexte international peut jouer en faveur d'une révolution. D'une part, les révolutions sociales ne se sont produites que dans des pays dont la position internationale était mise en péril, du fait de plusieurs facteurs, tels qu'une défaite militaire, des dépenses de guerre trop lourdes, un affaiblissement récent de l'influence du pays sur la scène internationale, etc. Donc elle nous dit, je cite là encore Skocpol, que les révolutions sociales ont trouvé dans les conflits internationaux l'espace nécessaire à leur accomplissement et à leur consolidation. Le contexte international joue également, selon elle, par l'existence de précédents qui servent de source d'inspiration. Une révolution réussie dans un pays, ça incite d'autres à se révolter à leur tour, en montrant que c'est possible et que ça peut marcher. Donc il y a un effet d'entraînement, il y a un effet de modèle qui peut inspirer d'autres pays. Et on peut remarquer que c'est clairement ce qu'on a vu à partir de la Tunisie, c'est-à-dire qu'ensuite il y a eu l'Égypte, il y a eu la Libye, il y a la Syrie, il y a eu le Yémen, un ensemble de pays, dans une certaine mesure le Maroc. Bon, toutes ces dynamiques n'ont pas triomphé, les révolutionnaires n'ont pas triomphé partout, mais ça a servi de modèle. Autre exemple, c'est 1989, dans le bloc soviétique, où on a un effet d'imitation, avec un succès partout, sauf en Chine, avec l'échec du mouvement étudiant, mais précisément, ce n'était pas un pays du bloc soviétique. Donc, contexte international, deuxième facteur important sur Skocpol. Et puis, troisième principe ou niveau d'analyse sur lequel elle va insister, c'est ce qu'elle appelle l'autonomie de l'État. Donc quelque chose qu'elle emprunte à Barrington Moore. Et là aussi, il y a une prise de distance avec le marxisme. L'État n'est pas considéré comme l'instrument ou l'expression des intérêts de la classe dominante. Certes, ils sont souvent liés, et très étroitement, mais pas sur le mode de la dépendance complète de l'État à l'égard des couches dominantes. Et l'État a aussi sa logique propre, qui s'oppose à celle de la classe dominante ou des classes dominantes qui peuvent elles-mêmes poursuivre des intérêts contradictoires. Entre aristocratie foncière et bourgeoisie industrielle, par exemple. Donc, pour expliquer les révolutions, nous dit Skocpol, il est essentiel de concevoir les États comme des organes administratifs et coercitifs potentiellement indépendants des intérêts et des structures socio-économiques. Et ça, c'est lié au fait, je la cite, qu'en s'appropriant les ressources de l'économie et de la société, les États entrent nécessairement plus ou moins en concurrence avec la ou les classes dominantes. Une fois appropriées, ces ressources sont utilisées pour des objectifs qui peuvent très bien être contraires à ceux des classes dominantes existantes. Elles peuvent être affectées à la consolidation de l'État lui-même et de son autonomie. C'est-à-dire que l'État il ponctionne aussi une partie des ressources de la classe dominante, parfois au service de la classe dominante, mais il est aussi pris dans sa logique propre, dans sa logique de développement lui-même, et la logique de constitution, de consolidation de l'État, qui est quelque chose de relativement récent dans l'histoire occidentale, ça s'oppose aussi à certains intérêts de classe. Alors comment ces principes d'analyse vont s'appliquer aux trois pays que Skocpol a retenus, donc la France, la Russie et la Chine? Alors dans le cas de la France, on trouve effectivement une situation internationale défavorable, même si c'est sur un mode assez ambigu. La France a soutenu la guerre d'indépendance américaine, mais cette guerre s'est révélée coûteuse. En outre, des positions coloniales ont été perdues et les caisses sont vides. L'idée de Louis XVI, pour remplir les caisses, c'est d'instaurer un nouvel impôt qui serait indexé sur la propriété foncière. Et là, du coup, il se heurte aux intérêts de la classe dominante, en l'occurrence les nobles, qui sont de grands propriétaires fonciers. Et également, certaines fractions de cette classe dominante sont liées à l'État via la vénalité des offices, c'est-à-dire le fait que les postes administratifs et militaires importants sont achetés par les plus riches. Ceux qui sont les plus riches, pas forcément les plus compétents. Mais eux, ils ont les moyens d'acheter, et ça nourrit du ressentiment chez les bourgeois qui s'estiment plus compétents. Donc le régime incarné par le roi, il est victime d'une crise d'autorité. Il entre en conflit avec la classe dominante, les aristocrates, dans le même temps qu'il y a du mécontentement dans la bourgeoisie et dans la population plus généralement. Et la situation économique fait qu'il faut quand même trouver une solution. Et la solution, ça va être la convocation des États généraux, et c'est là que les ennuis de Louis XVI vont sérieusement commencer. Alors, le cas russe, maintenant. Il s'agit d'un empire qui s'est consolidé à partir de Pierre le Grand sur une économie agraire fondée sur le servage. Mais au XIXe siècle, l'empire subit des échecs militaires, notamment une défaite pendant la guerre de Crimée en 1855, qui entraîne la perte de l'accès à la mer Noire. Cette défaite fait prendre conscience du retard du pays au niveau militaire, dans les transports et également dans l'industrie. Donc une modernisation de l'État est impulsée sous Alexandre II, il s'est rendu compte de... problème de ce retard, mais cette modernisation, elle contrevient aux intérêts de l'aristocratie foncière. Alors, dans le même temps, cette aristocratie foncière, elle ne peut pas véritablement se révolter contre le tsar, parce que on devient noble et on bénéficie de propriétés foncières en reconnaissance des services rendus au tsar. Donc c'est un peu scier la branche sur laquelle on est assis, si on se révoltait. Et puis par ailleurs, ces propriétés foncières sont mal gérées, elles sont dispersées, elles rapportent peu de richesses, parce que on n'a pas eu une modernisation des modes de culture dans l'Empire russe. Et c'est une agriculture qui est fondée sur une main-d'œuvre à bon marché, le servage, mais pas sur des techniques modernes d'exploitation de la terre. Bon, sous le coup de la modernisation, on a une première industrialisation assez rapide à la fin du XIXe siècle qui impulse la formation d'une nouvelle couche sociale, c'est-à-dire un prolétariat urbain. En 1905, éclate une première révolution après la guerre perdue contre le Japon. Donc une nouvelle fois, les facteurs internationaux, le contexte international pèse. Et les représentants des propriétaires fonciers, des professions libérales, de la bourgeoisie contestent la monarchie en réclamant un ensemble de libertés politiques et de progrès sociaux, dans le même temps que ce mouvement est appuyé par une révolte du prolétariat urbain qui exprime des revendications économiques. Finalement, cette révolution de 1905 se termine sur un échec et sur une reprise en main du pouvoir par le tsar. Mais la nouvelle embûche sur le chemin du tsar, celle-là fatale, c'est le début de la Première Guerre mondiale. La Russie subit une série de défaites contre l'Allemagne. La bourgeoisie retire sa confiance au tsar et les classes sociales inférieures se rebellent en 1917. Et voilà, on a la chute de l'Empire, la victoire des bolcheviks, etc. La révolution communiste triomphe pour la première fois. Et puis, dernier cas étudié par Skocpol, c'est la Chine, où on a également une société largement agraire, encore de type féodal, avec une nuance, c'est qu'elle est gérée par une fonction publique impériale, recrutée par concours, dominée donc par les mandarins, qui sont en quelque sorte des hauts fonctionnaires, qui administrent les biens de l'Empire, mais en se servant au passage. C'est-à-dire qu'ils prélèvent leur part sur les impôts qui sont dus à l'empereur. Là aussi, la fin du XIXe siècle montre que de grands empires basés sur l'exploitation agricole et sur l'exploitation des agriculteurs, surtout des pays des serfs, affaiblissent ces pays sur la scène internationale et qu'ils sont à la merci, ils sont vulnérables en cas de guerre, notamment coloniale, dans le cas de la Chine qui est vaincue par l'Angleterre à la fin du XIXe siècle. Une nouvelle fois, c'est un pays économiquement arriéré qui est vaincu par une force militaire appuyée sur l'industrialisation. Dans le même temps, on a une croissance démographique qui devient difficilement supportable pour une économie aussi arriérée dans ses modes de production agricole. Les recettes fiscales diminuent tandis que la pression fiscale s'accroît sur les petits paysans, ce qui provoque des révoltes paysannes récurrentes. On a une nouvelle défaite de la Chine, cette fois devant le Japon, en tournant 1895-1896, à laquelle tente de répondre, là aussi, c'est le même modèle qu'en Russie, un petit peu décalé dans le temps, c'est-à-dire qu'on entreprend une réforme de l'État entre 1901 et 1911, mais, nous dit Skocpol, cette réforme détruit le gouvernement réformateur, en exacerbant les tensions entre les mandarins et l'État impérial. État impérial qui est en plus fragilisé par le fait qu'il est perçu comme étranger parce que la dernière dynastie, les Qing et Mandchou. Donc une révolution éclate en 1911, la République est proclamée, mais c'est un régime qui est extrêmement fragile, qui est miné par des tensions internes. Et jusqu'en 1949, la Chine va être dévastée par la guerre civile et un nouveau conflit avec le Japon, jusqu'à la victoire finale des communistes de Mao sur les nationalistes de Chiang Kai-shek qui se réfugient à Taïwan. Et là aussi, c'est une révolution qui est menée par les couches paysannes, ce que Mao rationalisera sous le principe « il faut encercler les villes par les campagnes ». Alors, on voit, si on fait un petit peu le bilan de cette perspective, on voit combien le modèle de Skocpol s'accorde aux trois révolutions qu'elle étudie et qu'elle s'inscrit dans la continuité de Barrington Moore en insistant sur le rôle des structures agraires et des couches paysannes. Alors, la question de l'adéquation du modèle à d'autres révolutions peut toutefois se poser. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est normal que le modèle convienne aux trois cas qu'elle a étudiés, puisqu'il a été élaboré à partir de leur analyse. Et il faudrait faire attention à ne pas tomber dans le même piège que l'histoire naturelle à la Crane-Brinton que j'avais évoquée la semaine dernière, c'est-à-dire de penser qu'il y a des conditions nécessaires, indispensables au développement d'une révolution, et que ce serait toujours celle que, précisément, Skocpol a identifiée. Et puis, le fait de tenir à l'écart l'action des révolutionnaires, leurs programmes, leurs actes concrets dans le cours des phénomènes de révolte, constitue un manque assez gênant. On ne peut pas réduire les individus simplement à des porteurs de structure, ce qui est un petit peu la posture que défend Skocpol. Alors, c'est une difficulté qu'on va retrouver dans un autre modèle d'analyse des révolutions et plus globalement des mouvements sociaux, qui lui aussi a un modèle structuraliste, qui est celui de la structure des opportunités politiques. Alors, la structure des opportunités politiques, ce sont des éléments du système politique qui le rendent plus ou moins ouvert ou fermé aux revendications des contestataires. Et par exemple, sont pris en compte dans ce concept des éléments comme la centralisation de l'État, l'existence de canaux institutionnalisés qui seraient à même de relayer les revendications qui émanent de la société, ou encore la stabilité des rapports de force internes au champ politique. Et les structures des opportunités politiques sont plus ou moins ouvertes, ou plus ou moins fermées, selon les pays. Un exemple classique, un petit peu scolaire, c'est comparer la structure opportunité politique de la France et de la Suisse. La structure française est supposée fermée parce qu'on a un État centralisé qui a l'habitude de répondre de manière assez brutale à l'égard des contestataires, voilà. Alors que la Suisse, c'est un régime fédéral où il n'y a pas de centralisation du pouvoir et puis qui dispose d'un système de démocratie référendaire. Et du coup, ça aurait une influence sur la forme des mouvements sociaux, c'est-à-dire que les mouvements français sont davantage perturbateurs que les mouvements suisses, qui sont davantage pacifiques, parce que lorsqu'on veut défendre des revendications, on peut faire un référendum d'initiative populaire, les votations, etc. Alors évidemment, lorsqu'on transpose ce modèle d'analyse à des régimes autoritaires, la structure des opportunités politiques est de toute façon fermée aux revendications de la société, et les mouvements sociaux eux-mêmes ont toutes les chances d'être férocement réprimés. Mais dans certaines circonstances, la structure des opportunités politiques peut s'ouvrir sous l'effet de divers facteurs, tels que la maladie du dictateur, qui pose la question de sa succession, une entreprise militaire qui tourne mal et qui affaiblit la légitimité du pouvoir, une crise économique ou une catastrophe naturelle que le régime est incapable de surmonter, ou encore le retrait du soutien d'une puissance étrangère. Ce sont des facteurs qui peuvent influer sur la structure et les opportunités politiques. Et par exemple, on attribue dans cette perspective la chute de Somoza et la victoire de la révolution sandiniste au Nicaragua en 1979 au fait qu'il y a eu précédemment un tremblement de terre qui a été véritablement catastrophique et que le régime s'est approprié une grande partie des secours, a laissé la population dans le plus grand désarroi, la plus grande détresse, donc ça a quand même miné la légitimité du régime. Et puis, autre facteur, c'est le retrait du soutien des États-Unis à ce régime sous l'administration Carter, qui était davantage vigilante en matière de droits de l'homme. C'est un type d'explication qui a été aussi appliqué à la révolution iranienne. Le régime aurait été affaibli dans cette perspective par le cancer du Shah et par le même souci des droits de l'homme de la même administration Carter. On est au même moment. Et puis, se seraient ajoutées des difficultés économiques et une défection des forces militaires. Alors, Kurtzman, dont j'ai déjà cité le travail, va réfuter cette thèse en montrant que ces explications ne tiennent pas. Les États-Unis continuaient à soutenir la monarchie iranienne, parce que droit de l'homme, n'empêche que quand il y a du pétrole, c'est secondaire. Les difficultés économiques n'étaient pas nouvelles. Et puis la maladie du Shah, elle était encore trop confidentielle pour perturber le régime et poser véritablement la question de sa succession. Par contre, nous dit Kurtzman, les opposants se sont basés sur des indicateurs en grande partie erronés lorsqu'ils se sont mobilisés. Alors, c'est quelque chose d'assez curieux, mais la démonstration de Kurtzman est probante. Pour le dire rapidement, ils se sont crus plus forts qu'ils ne l'étaient. Ils avaient une confiance excessive en eux, mais ça leur a servi car ils ont fait preuve d'une détermination et d'une audace qui, en retour, a suscité l'inquiétude du régime qui s'est rapidement effondré. L'armée, elle était fidèle au régime, elle était prête à réprimer les manifestations dans un bain de sang, et d'ailleurs ce qu'elle a fait pendant les premières manifestations. Mais l'ampleur de ces manifestations, le fait que les manifestants ne soient pas touchés par la répression, qu'ils ne soient pas intimidés par la répression, a fini par faire douter l'armée, et finalement elle s'est déclarée neutre. Bon, évidemment, à ce moment-là, le Shah n'avait plus, ne pouvait plus compter sur aucune protection, et c'est précisément à ce moment-là qu'il s'est enfui en laissant la place libre, une vacance du pouvoir dont se sont saisis les révolutionnaires. En d'autres termes, ce n'est pas l'état de la structure des opportunités politiques qui est déterminant, mais c'est sa perception par les contestataires. En Iran, en 1979, le régime n'était pas particulièrement vulnérable. La structure des opportunités politiques n'était pas spécialement ouverte, elle n'était pas plus que précédemment. Par contre, les contestataires ont cru qu'elle était ouverte, à tort, mais ça leur a donné de l'audace, de la détermination. Et cette audace, en retour, a fait douter le régime et ça a favorisé son effondrement. Donc, on le voit, hein, le jeu des structures sociales doit être localisé dans un contexte pour qu'on comprenne vraiment comment elles interviennent dans les processus révolutionnaires. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai davantage la semaine prochaine. Alors maintenant, mon troisième point sur la question des réseaux et également des organisations. Alors, je vais garder le même exemple de la révolution iranienne pour commencer donc ce troisième point. À des moments importants de cette révolution, parmi d'autres épisodes marquants, ça a été un appel à la grève générale qui a été lancé par l'ayatollah Khomeini en octobre 1978. Alors, c'est un appel qui a posé un problème sérieux aux commerçants des bazars, des bazaris, qui constituent en Iran une couche sociale importante, à la fois démographiquement et politiquement. Et ces commerçants, on n'en est qu'au début de la révolution, ils n'avaient pas forcément envie de faire grève, mais ils n'avaient pas envie non plus de courir le risque d'être le seul du bazar à rester ouvert. Hein ? S'imaginer un grand bazar à l'oriental. Donc chacun est venu pour voir comment faisaient les autres. Et personne n'a pris le risque d'ouvrir son magasin et donc de passer pour un lâcheur. Donc la grève a été massivement suivie, en tout cas dans le secteur commercial, hein, dans le secteur des bazars. Donc on voit que c'est en situation, en s'évaluant mutuellement, que les individus vont décider de rejoindre ou pas un mouvement insurrectionnel. On voit également que les idéologies, les programmes, les revendications ne jouent pas un rôle de premier plan dans ces processus. Ce n'est pas pour défendre l'instauration d'une république islamique que ces commerçants ont fait grève ce jour-là. C'est parce qu'ils voulaient pas, ils étaient prudents. Voilà. Et ils ne voulaient pas insulter l'avenir. Un autre exemple d'insertion dans des réseaux sociaux est fourni par le travail du sociologue américain Roger Gould sur la Révolution française de 1848 et la Commune. Et ce sont deux révolutions qu'il a étudiées en comparant le recrutement social des effectifs révolutionnaires. Et ça lui permet de conclure que si la révolution de 1848 était bien une révolution de travailleurs, la Commune, en revanche, était une insurrection urbaine. Donc on a une rupture avec la lecture marxiste de la Commune, une lecture que Marx lui-même va défendre dans son ouvrage « La guerre civile en France », publié en 1872, un an après les événements. Alors, qu'est-ce qui permet à Roger Gould d'avancer une thèse quelque part un peu iconoclaste ? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, la révolution de 1848, elle est effectivement portée par des enjeux, elle est liée à des enjeux économiques portés par les ouvriers parisiens, qui étaient alors largement victimes du chômage et à qui les ateliers nationaux étaient destinés à procurer du travail. Alors, à ce propos, Gould, qui s'appuie sur un autre sociologue américain, Mark Traugott, T-R-A-U-G-O-2-T, tous les deux, ils contredisent Marx, qui avançait que c'était une différence de classe qui séparait les insurgés de juin 1848 et les gardes qui les ont opprimés. La révolution de 1848, pour rappel, il y a une première insurrection en février et il y a une seconde insurrection qui fait chuter Louis-Philippe. Il y en a une seconde en juin qui est férocement réprimée et qui ouvre la voie à un gouvernement bourgeois. Et Marx dit que ces gardes qui ont écrasé cette insurrection venaient du sous-prolétariat, ils étaient prêts à toutes les basses œuvres dès lors qu'on leur offrait de l'argent. Par contre, c'était des prolétaires, des ouvriers qui s'étaient insurgés. Et en fait, dit Trogoth et Gould après lui, il n'y avait pas de réelle différence de classe entre les deux groupes qui se sont affrontés. Dans les deux cas, c'était des ouvriers, mais c'est la dynamique des événements qui a fait qu'ils se sont retrouvés d'un côté ou de l'autre de la barricade. Mais bon, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que pour Gould, 1848, c'est bien une révolte ouvrière qui défend les intérêts de classe du prolétariat urbain. Ce qui a rendu possible la révolution de 1848, c'est aussi le fait que Paris était une ville industrieuse, où les quartiers, par exemple, étaient divisés selon leurs activités. Les bronziers dans tel quartier, les orfèvres ailleurs, les artisans du meuble Faubourg Saint-Antoine, on en trouve toujours des traces aujourd'hui. Ce monde ouvrier du milieu du XIXe siècle, il était d'ailleurs plus proche de l'artisanat, et surtout les ouvriers vivaient là où ils travaillaient, à proximité de leur atelier, voire au domicile de leur patron. C'est une situation qui change radicalement sous le Second Empire, donc après 1848. Ça change radicalement avec l'haussmannisation d'une part, et d'autre part l'annexion des communes limitrophes de Paris, Belleville, Grenelle, La Villette, etc., qui étaient des communes indépendantes. Donc on a une transformation urbaine extrêmement importante qui contribue à chasser les ouvriers du centre de Paris. Et donc ils s'en vont résider dans ces nouveaux quartiers de la périphérie, ces villes et villages qui ont été annexés sous le Second Empire. Du coup, le lieu de résidence, il est différent et disjoint du lieu de travail. Et les ouvriers n'ont plus une sociabilité de métier, mais de résidence. Le soir, ils retrouvent au cabaret, près de chez eux, des ouvriers d'autres professions que la leur, et ils tissent avec eux des liens d'amitié. Donc la sociabilité de résidence n'est plus basée sur le métier, elle est faite basée sur le voisinage. Et c'est quelque chose dont Gould trouve la trace en étudiant les registres d'état civil et en s'intéressant notamment aux témoins des mariages. C'est-à-dire qui est-ce qu'on va prendre comme témoin de mariage? Ben pas son patron dans l'atelier, mais davantage un voisin. Et comme les métiers sont indiqués sur les registres d'état civil, il peut repérer cette diversité des appartenances professionnelles dans les liens amicaux qui se tissent pendant le Second Empire. Et il va retrouver la même logique dans le recrutement dans la garde nationale. Les individus pendant la commune, donc la force militaire de la commune, les individus vont rejoindre ces rangs en accompagnant leurs voisins et aussi sous l'influence des réseaux d'interconnaissance. C'est un peu gênant d'être le seul de son immeuble à n'avoir pas rallié la garde nationale. Et plus on est intégré socialement dans des réseaux, moins on peut se soustraire à cette pression, qui n'est pas nécessairement une pression coercitive, mais le dégonflé du troisième étage, on n'ose pas trop. Et c'est cette fois l'étude des archives des procès des communards qui montre que la base du recrutement dans les troupes révolutionnaires, ce n'est pas l'atelier comme en 1848, mais c'est le voisinage, le quartier. Et donc c'est en tant que résident de tel ou tel quartier de Paris que les Parisiens ont participé à la commune. Et leurs revendications, elles étaient certainement sociales, il n'y a aucun doute là-dessus, mais elles concernaient aussi la gestion de la ville et elles proclamaient une identité parisienne très forte. Donc les ressorts de la mobilisation, les réseaux qui ont conduit la mobilisation, n'étaient pas professionnels mais urbains. Et des réseaux de sociabilité qui préexistaient à la Révolution sans être de nature politique ont favorisé la Révolution en facilitant le recrutement des révolutionnaires. Alors, ce sont des choses qu'on retrouve très, très classiquement, et notamment un collègue, Choukri Med, a étudié ça dans la Révolution tunisienne. Il montre que c'est autour de la sociabilité de la rue, et notamment de celle des jeunes, que se sont constituées les premières manifestations. Et c'est aussi en utilisant leur connaissance du quartier et de sa géographie que les jeunes ont pu défier la police dans les affrontements. Choukri Med montre aussi que les réseaux organisationnels préexistants ont aussi joué un rôle de structuration de la protestation. Et ce sont spécialement les réseaux organisationnels de la principale centrale syndicale, l'UGTT, dont on constate toujours l'importance aujourd'hui. Alors, ce sont surtout les responsables de niveau local du syndicat qui ont favorisé cette mobilisation, qui l'ont organisée, parce que la tête du syndicat, elle était davantage compromise avec le régime de Ben Ali. Alors, c'est un exemple qui ne doit pas conduire à surestimer le rôle des organisations militantes, qui souvent, et même dans le cas tunisien, n'impulsent pas les révolutions, hein, mais qui peuvent, en revanche, mettre en forme et en discours les revendications qui s'expriment de manière plus désordonnée. Mais, et là je rejoins Skocpol, elles sont souvent dépassées et il leur est souvent difficile de gagner le contrôle des mobilisations insurrectionnelles. Hein. Ce qui leur impose aussi de jouer sur d'autres scènes en parallèle, des scènes davantage institutionnelles. Alors pour conclure maintenant, quelques mots sur le problème des causes et des préconditions des révolutions hein, que j'ai essayé d'évoquer. Alors c'est une attitude normale et automatique que de se demander qu'est-ce qui provoque des événements aussi importants, hein, des situations aussi exceptionnelles, elles suscitent l'interrogation sur ce qui a amené, sur ce qui a pu amener des foules entières à abandonner leur passivité ou leur soumission et parfois à sombrer dans la violence. Donc cette interrogation sur les causes, elle est normale, elle est logique, mais elle rencontre des limites. La première limite, elle réside dans la tentation de la prédiction. Si on arrivait à repérer les causes des révolutions, les causes nécessaires à la révolution, eh bien on pourrait, en constatant qu'elles sont réunies dans un pays donné, on pourrait prédire qu'une révolution va bientôt émerger. Hein, puisqu'on a une liste de préconditions, de causes, on regarde la Suisse, ça c'est réuni, la Suisse est en situation pré-révolutionnaire. Bon. C'est une ambition qui a toujours été déçue. Et pour souvenir, l'Iran en 1978, la Tunisie en 2010, étaient décrits, notamment par les diplomates, comme des havres de stabilité dans leur région. Et aucun spécialiste des pays de l'Est, par exemple, n'avait prévu les basculements politiques de 1989. On avait tout un tas d'experts en soviétologie, par exemple, qui n'avaient strictement rien vu. En fait, la réalité historique, elle est beaucoup trop complexe et hasardeuse au sens de Paul Venn, hein, elle est trop soumise aux causes superficielles pour pouvoir faire l'objet de prédictions. Et puis, partir à la recherche des causes des révolutions, ça présente une autre limite, qui est cette fois inhérente au fait que l'identification de ce qui provoque une révolution, eh ben, peut-être que ce n'est pas essentiel pour la compréhension des phénomènes révolutionnaires. En tout cas, ce n'est pas une démarche suffisante. S'intéresser aux causes, donc à ce qui se passe avant l'insurrection, ça ne permet pas de savoir ce qui se passe pendant une révolution, de cerner en quoi ça consiste une révolution. Et pourtant, c'est une question qui est digne du plus haut intérêt, et c'est précisément la question qu'on abordera la semaine prochaine. Merci.